C'est un site géologique unique au monde, Dalol en Éthiopie. Dans ce désert infernal aux couleurs hallucinantes, on trouve des sources chaudes, des lacs huileux, des geysers, des fumerolles au milieu d'émanations d'acide et de soufre. Et pourtant, ce lieu extrême est aussi un paradis pour les scientifiques qui se trouvent face à des conditions qui ont pu être celles de l'apparition de la vie sur Terre. Le réalisateur Olivier Grunewald a suivi l'équipe de purification Lopez Garcia à l'occasion d'une expédition scientifique l'année dernière. C'est l'objet d'un documentaire, c'est l'occasion de découvrir donc ce lieu hors du commun où l'on cherche de nouvelles formes de vie. Et j'attends dès maintenant vos questions et vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et à la une de la science aujourd'hui, hasard de l'actualité scientifique, une découverte réalisée dans les plus vieilles roches terrestres de la planète.
Oui, ces roches ont plus de 4 milliards d'années, elles ont été découvertes au Canada et des chercheurs pensent y avoir trouvé des micro-organismes fossilisés. S'ils sont confirmés, ce seraient les plus vieux jamais découverts. On en discute avec le paléochimiste Sylvain Bernard.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de Dominique Dupagne consacrée aujourd'hui à son programme de futur ministre de la Santé. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Dylan Beiner.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et donc dans quelques minutes, nous partons dans l'enfer du site de Dalol en Éthiopie avec mes invités Purification Lopez Garcia et Olivier Grunewald. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Purification Lopez Garcia, cet enfer géologique, c'est surtout votre paradis en tant que chercheur, hein ?
En tout cas, oui, je pourrais dire oui, on cherche la vie et la vie aux frontières du monde biotique ou biologique et géologique. Donc, ouais, oui.
Avec des conditions très particulières et assez uniques hein, pour notre planète. On va en parler avec vous dans quelques instants. Mmh. Olivier Grunewald, c'est un des plus beaux lieux de la planète à filmer également pour un réalisateur. Les couleurs à Dalol, mais c'est totalement hallucinant quand même. Hein.
C'est effectivement un endroit absolument incroyable. Je pense que ça fait partie des plus belles zones hydrothermales que l'on puisse trouver, dans la mesure où en plus il n'y a pas de végétation autour. On est dans un endroit complètement minéral et on sort d'une espèce de plaine grise salée et on arrive dans un endroit avec des couleurs absolument incroyables.
Voilà, des verts, des jaunes, des marrons, tout un tas de couleurs incroyables. On a les photos hein, d'ailleurs sur le site de l'émission pour ceux qui souhaitent les regarder en nous écoutant. On vous retrouve dans un instant donc pour découvrir ces recherches menées à Dalol en Éthiopie avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site. Et ce sujet qui va forcément vous intéresser avec les plus vieilles roches terrestres, contiennent-elles également les plus vieux fossiles du monde vivant? Une équipe internationale publie aujourd'hui dans la revue Nature l'étude détaillée de ces roches de la côte est du Canada. Ils y décrivent des tubes, des granules et même des rosettes, une multitude de formes très particulières présentées par les chercheurs comme les plus vieux micro-organismes fossilisés. Sylvain Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour en parler. Vous êtes chercheur en paléontologie chimique à l'Institut minéralogique de physique des matériaux et de cosmochimie à l'Université Pierre et Marie Curie. Alors d'abord, à quoi ressemblent ces traces, ces structures retrouvées dans ces roches québécoises en l'occurrence? Décrivez-nous un peu les images qu'ont réussi à obtenir ces chercheurs.
Alors, bon, ces formes, elles sont multiples. Ces chercheurs, ils ont observé donc les roches les plus vieilles du monde, hein, qui sont datées entre 3,7 et 4,2 milliards d'années. Et ils ont trouvé dans ces roches des sortes de tubes, de filaments, qui font quelques dizaines de microns de long, pour quelques microns seulement d'épaisseur. Mmh. Et ils ont également trouvé des rosettes. Alors, ce qu'ils appellent des rosettes, c'est des sortes de structures concentriques, à nouveau composé de minéraux principalement. Mmh. Et puis ils ont trouvé des granules, donc c'est des zones de ces roches constituées de petits grains qui font quelques microns à quelques dizaines de microns avec des minéraux et des grains de carbone.
Alors ce que vous décrivez ne fait pas penser directement à de la vie. Qu'est-ce qui concrètement permet à ces chercheurs de parler de micro-organismes fossilisés? Parce que c'est les mots qu'ils emploient. Hein.
Oui, alors c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler des micro-organismes fossilisés. Ces chercheurs, ils interprètent ces structures comme étant des restes de la présence de micro-organismes. Il faut bien se rendre compte que ces roches, c'est des roches très très vieilles et donc elles ont subi une histoire géologique très compliquée. Elles ont été enfouies en profondeur, elles ont subi de la température, elles ont été écrasées par le poids des roches au-dessus. Et donc ces roches se sont transformées au cours des 4 milliards d'années de leur existence. Et donc, ce qui reste dans ces roches, en tout cas d'après ces auteurs, c'est des preuves, c'est des restes de micro-organismes complètement dégradés qui auraient réagi, dont les molécules organiques auraient réagi avec les minéraux présents pour former ces structures.
On connaît sur Terre aujourd'hui des micro-organismes qui forment des tubes comme ça dans la roche ou des granules ?
Alors, on en connaît, ça a été décrit par différents auteurs de micro-organismes qui creusent certaines roches volcaniques et qui vivent dans ces tubes. Ça a été documenté. C'est d'ailleurs sur cette base-là que les auteurs de l'article dont on parle aujourd'hui ont interprété ces tubes comme des tubes creusés par des micro-organismes.
Et l'idée, c'est de comparer avec quel autre type de structure ? Naturellement, ces tubes peuvent se creuser, alors ?
Alors, l'idée, c'est toujours la difficulté quand on regarde des roches très anciennes, c'est de réussir à identifier l'origine biologique des objets qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on peut très bien former des objets similaires sans faire du tout intervenir le vivant. Et pour le coup, des tubes de ces dimensions-là dans des roches volcaniques, ça peut aussi se former au cours du refroidissement de la roche volcanique, de la lave à l'origine de la roche volcanique. C'est ce qu'on appelle des microlithes. Ça peut avoir toute forme et toute dimension, et donc notamment celle-là également.
Mais alors, l'idée de cette publication, Sylvain Bernard, c'est de nous dire quoi au fond ? C'est que ces micro-organismes ont existé il y a aussi longtemps que ça, il y a 4 milliards d'années, donc la vie serait née si tôt sur notre planète ?
Bah, c'est tout l'enjeu en fait. C'est-à-dire qu'on sait maintenant de façon assez certaine que l'environnement il y a 4 milliards d'années pouvait, enfin, en tout cas certains environnements sur Terre étaient favorables à l'apparition du vivant. Mmh. Et on n'a toujours pas de preuve directe que la vie existait il y a
aussi longtemps
d'années,
ouais,
sur Terre.
Ouais.
Et donc ça, c'est une étude, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, ils ont beaucoup d'observations et ça les mène à interpréter. Ils interprètent ces observations comme une preuve que la vie existait sur Terre à ce moment-là, donc c'est vraiment une grosse découverte.
Mais vous êtes d'accord avec cette interprétation ou pas ? Parce que c'est assez controversé, il faut bien le dire quand même. Hein.
Alors, c'est très controversé et ça s'explique assez facilement, hein, toutes ces controverses. À nouveau, c'est parce que ces roches sont très vieilles, très déformées, elles ont subi des températures très élevées. Hein, ces roches, notamment, elles ont subi des températures de 500 degrés à peu près. Et donc, tout ce qu'on retrouve dans ces roches, c'est très compliqué à identifier. Je dirais pas que je suis pas d'accord, je dirais qu'il faut vraiment être prudent parce qu'on peut toujours imaginer des processus ne faisant pas intervenir le vivant pour former des structures similaires.
Vous parliez de l'environnement, à quoi ressemblait l'environnement extérieur au moment de la formation de ces roches ? On était où ?
Alors, ces roches, c'est des basaltes. Ils ont retrouvé des basaltes en coussin, c'est-à-dire que c'est typique de lave qui refroidissent très rapidement sous l'eau. Et plus exactement, ces roches, elles viennent de systèmes hydrothermaux qui existaient à l'époque. Et donc, en tout cas, ces roches se sont formées dans des environnements très similaires à ce qui peut exister au milieu des océans à l'heure actuelle. C'est-à-dire des zones où on forme le plancher océanique, où on a des remontées de lave qui refroidissent très très rapidement dans l'eau. Et puis, on a des systèmes hydrothermaux avec des circulations de fluides très chauds et une richesse minéralogique qui est inégalée ailleurs sur la planète. Alors ça, à l'heure actuelle, c'est des environnements où on sait qu'il y a de la vie, qui a colonisé ces environnements. On ne sait pas si la vie apparaît dans ces environnements, mais on sait qu'il y a de la vie dans ces environnements. Et donc, toute l'idée, c'est d'aller vérifier que la vie existait déjà dans ces environnements il y a 4 milliards d'années.
Alors, il y a notre invité, Purification de Lopez Garcia, qui a envie de réagir, évidemment, en tant que spécialiste des micro-organismes en milieu extrême. Vous êtes très partagé, vous aussi, sur l'interprétation qu'on pourrait faire de cette étude, à savoir que la vie serait apparue il y a si longtemps que ça ?
J'ai pas de problème pour penser que la vie a pu apparaître à cette époque-là, puisque les conditions étaient déjà favorables. Mmh. Mais je suis, comme Sylvain, très prudente quand il s'agit d'interpréter ces microfossiles, entre autres parce que au moment où la vie a paru, juste avant, il y avait de la matière organique, des systèmes hydrothermaux, et il est tout à fait possible de former des structures qui ressemblent à la vie et qui piègent de la matière organique. Une matière organique ne formée nécessairement par la vie, mais de manière abiotique, c'est-à-dire de manière non biologique, et que ces structures peuvent piéger cette matière organique qui est interprétée par la suite comme comme des microfossiles. Mais ouais.
Donc c'est une question d'interprétation là où il faut être très prudent. En fait,
il faut être extrêmement prudent parce qu'on peut avoir des choses similaires à la vie qu'on peut appeler des biomorphes construits de manière non biologique.
Mais là, quand même, cet endroit-là sur Terre, ces roches-là en particulier, donc au Québec, elles sont extrêmement intéressantes.
Hein. Ah, tout à fait, ça, c'est bien sûr.
Alors, Sylvain Bernard, pour conclure vraiment sur le sujet, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait trouver plein de fois des roches avec les mêmes structures, mais pas la même histoire ?
Ouais, alors en fait, l'idée pour essayer de s'affranchir du problème de réactions abiotiques qui peuvent avoir lieu pendant l'histoire géologique de la roche, pendant son enfouissement, et qui peuvent donner naissance à ces biomorphes, à ces pseudo-microfossiles, il faudrait qu'on puisse comparer ce qu'on observe dans ces roches vieilles, très vieilles, à des roches de même âge qui se seraient formées dans les mêmes conditions, mais qui n'auraient pas forcément subi la même histoire géologique. Ça permettrait de pouvoir mettre de côté plusieurs processus qui ont lieu pendant l'histoire géologique de la roche, et conserver seulement quelques processus à discuter, et ce serait déjà beaucoup plus facile. Là, on regarde des roches qui ont subi une histoire compliquée, polyphasée, et donc ça devient très très dur de comprendre ce qu'on regarde. En fait.
On a des chances de trouver des roches aussi vieilles ailleurs sur Terre ?
Ben, pour le coup, ça, c'est des roches, ces roches du Canada, là, sont les plus vieilles qu'on connaisse jusqu'à présent. Mais on sait qu'on a des roches au Groenland qui ont 3,8 milliards, 3,7 milliards, et on ne connaît pas toutes les roches du Groenland, puisque la plupart sont recouvertes de glace. Et donc il est possible qu'on découvre des roches un peu plus vieilles encore, donc qui s'approcheraient de l'âge de cette formation, à Nuvuagituk. Et donc peut-être qu'on va avoir d'autres échantillons prochainement.
Bon, grâce au réchauffement climatique, alors pour le coup, peut-être, voilà. C'est moins des aspects positifs, si on peut dire, avec toutes les précautions d'usage. Merci beaucoup, Sylvain Bernard, pour vos explications. Cette publication est sortie aujourd'hui dans la revue Nature, et on va parler justement peut-être des origines de la vie avec ce site de Dalol en Éthiopie dans un instant. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une grande première dans le domaine des thérapies géniques. Une équipe de l'hôpital Necker à Paris déclare avoir soigné totalement un patient atteint de drépanocytose sévère. Grâce à ses propres cellules souches, cette maladie due à une mutation génétique conduit le corps à créer des globules rouges déformés. En prélevant des cellules souches dans la moelle épinière du patient, en modifiant le gène à l'origine de la maladie, les médecins sont donc parvenus à produire une lignée de cellules traitées qui ont ensuite été réinjectées dans son sang. 15 mois après la greffe de ces cellules corrigées, le patient n'a plus besoin de transfusion et a repris une activité physique et scolaire normale. L'anthropocène est incontestable, nous disent les minéralogistes dans un article publié aujourd'hui. Une équipe américaine affirme que 4% de tous les minéraux recensés sur la planète sont issus directement ou indirectement des activités humaines. Ces 208 nouveaux minéraux sur les 5200 connus à ce jour ont été formés en moins de 250 ans. Un clin d'œil comparé aux 2 milliards d'années d'évolution depuis l'apparition de l'oxygène sur Terre, qui ont conduit donc les processus géologiques à une différenciation très riche des minéraux, qu'ils soient issus des extractions minières, de la décomposition des navires au fond des océans ou des incendies. Ces nouveaux minéraux sont donc une preuve de plus que la Terre vit une époque géologique façonnée par l'homme. Et puis pour finir, l'éléphant, ce grand insomniaque. En étudiant le sommeil de plusieurs éléphants en liberté dans la nature, une équipe de chercheurs d'Afrique du Sud conclut que ce mastodonte ne dort pas plus de 2 heures par jour et peut rester très régulièrement plus de 48 heures sans dormir. C'est la plus courte durée de sommeil enregistrée chez tous les mammifères étudiés à ce jour. Une étude surprenante, sachant qu'en captivité, l'éléphant peut dormir jusqu'à 6 heures par jour. Sans en avoir aucune preuve, les chercheurs évoquent quand même l'hypothèse du stress qui maintiendrait ces animaux dans la nature en éveil, avec la peur d'être surpris par un lion ou un braconnier. Allez, direction Dalol, Éthiopie, dans un instant. Just like heaven, juste comme le paradis, The Cure sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Enfer ou paradis, selon le lieu où on se place, c'est un endroit justement unique sur notre planète dont nous parlons cet après-midi, le désert salé de Dalol en Éthiopie. Et c'est un objet de science fascinant pour tenter de comprendre comment la vie a pu apparaître. Tout là-bas y est extrême et la géologie de Dalol intéresse tout particulièrement les microbiologistes. L'année dernière, ce dôme de sel boursouflé a fait l'objet d'une expédition. Elle a été filmée pour ce documentaire que vous avez réalisé, Olivier Grunewald. Il est à voir en ce moment sur Dailymotion, après une diffusion sur Ushuaïa et avant une autre prochainement sur TV5. Purification Lopez-Garcia, vous êtes donc spécialiste des micro-organismes des milieux extrêmes. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire Écologie, Systématique et Évolution d'Orsay. Et vous avez coordonné donc cette mission avec David Morera et Olivier Grunewald. Vous êtes photographe nature. Vous avez réalisé beaucoup de photo-reportages sur les aurores boréales ou les volcans. Et donc ce documentaire Dalol aux frontières de la vie, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Alors quand on voit les images, Olivier Grunewald, on dit que vous avez beaucoup de chance d'aller là-bas à de très nombreuses reprises. Hein. Ça fait votre quoi, huitième voyage à peu près là-bas ?
Septième voyage. Ouais. Et en fait, c'est un endroit qui est resté très longtemps isolé parce qu'il est à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ouais. Et il y a eu une grande guerre d'indépendance qui a duré presque 30 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ensuite, il y a eu de nouveau une guerre entre 98 et 2000. Et donc, c'est une zone qui est restée très très longtemps isolée. Et par chance, en 2000, j'étais parti avec une mission de la Société volcanologique de Genève. Et en repartant, on était parti au départ sur un volcan qui s'appelle le volcan Ertaalé, où il y a un lac de lave. Et en repartant, on était arrivé en voiture et à pied, et on avait pu bénéficier d'un hélicoptère pour rejoindre une zone plus au nord où des caravanes exploitent le sel, donc un endroit assez extraordinaire, et on n'avait aucune idée de l'existence de Dalol. Mmh. Dalol était complètement tombé dans l'oubli, et en repartant avec l'hélicoptère, on a survolé Dalol. Et là, on était hypnotisé parce qu'on voyait par les hublots.
J'imagine. Oui.
Et le pilote de l'hélicoptère, le pilote militaire, connaissait cet endroit, mais seulement de nuit, parce qu'il avait l'habitude de voler quand il y avait la lune. Ouais. Et il avait repéré ces espèces de dômes qui brillaient la nuit. Il n'avait jamais vu de jour. Et il a décidé de se poser. Et on s'est posé 1h15. Et c'est comme ça qu'en fait, Dalol a été redécouvert. Dalol a eu une histoire humaine qui date, enfin l'histoire liée aux Européens qui date qui a commencé en 1908 par des projets d'exploitation de mines de potasse. Et en fait, plusieurs fois, Dalol a disparu des cartes. Et là, Dalol est réapparu. Quand on a passé 1h15 là-bas, on s'est dit, il faut qu'on revienne. L'année suivante, on est revenu, on a passé 5 jours. Et en fait, c'est comme ça qu'ont commencé les différents projets et que le site a commencé à être connu parce que les couleurs sont tellement fascinantes et tellement uniques.
Et il s'y passe des choses assez exceptionnelles, évidemment, du point de vue de la vie, du point de vue océanique aussi, parce qu'on dit qu'un océan est en train de naître sous nos yeux, justement, dans cette partie de l'Éthiopie. Et vraiment, j'invite les auditeurs à regarder les photos qu'on a postées sur le site de la Tête au Carré pendant qu'on discute, pour se rendre compte, justement, de ce paysage totalement époustouflant. Purification Lopez-Garcia, jamais des scientifiques n'étaient allés sur place pour étudier Dalol avant votre équipe ?
De scientifiques, disons, impliquant des biologistes. Mm-hmm. Je pense que des expéditions impliquant des géologues ont existé depuis longtemps. Il faut savoir que Dalol, avant d'avoir été redécouvert il y a quelques années, avait été déjà un endroit où il y avait une exploitation minière. Il y avait des Italiens qui s'étaient implantés sur place et il y a des restes de deux villages, et donc, ils avaient même une ligne de chemin de fer pour transporter la potasse qui s'exploitait déjà au début du XXe siècle. siècle. Après, tout ça s'est resté abandonné, mais ils avaient des connaissances de géologie. Et puis, c'est un endroit qui a toujours intéressé les géologues. Dalol, et puis plus largement, la dépression du Danakil, où ce dôme de Dalol est placé, qui est effectivement, qui se trouve le long du rift est-africain et qui est à la frontière de deux plaques. En plus, à cet endroit, c'est le point triple de l'Afar. En fait, il y a une petite troisième plaque. Et donc, c'est un endroit d'activité tectonique très importante et qui intéressait les géologues depuis toujours. Donc, pas simplement Dalol, mais exactement toute la dépression. Donc, pourquoi dépression? Parce qu'on est sous le niveau de la mer. C'est un ancien bras de la mer Rouge, si on peut dire, et qui, justement, dû à cette activité tectonique, s'est vu fermer l'accès à l'eau. Et donc, c'est une cuvette d'évaporation.
Ouais, moins 134 mètres, hein, c'est ça, sous le niveau de la mer, à peu
oui,
près.
Oui, après, ça dépend d'où on se situe, ouais. Mais oui, environ moins 124, 120, 130 mètres. La dépression, le dôme de Dalol, effectivement, s'élève sur...
Culmine
sous le niveau de la mer, toujours, mais à une certaine hauteur. Et en fait, donc l'eau s'est évaporée, ce qui explique pourquoi on a une croûte de sel. C'est une spécificité de cet endroit qui est de l'ordre de 1-2 km et très épaisse, due à l'évaporation des eaux de la mer Rouge. Et donc, effectivement, pourquoi un site actif? Parce qu'il y a ce phénomène de séparation des plaques à cet endroit-là et dans l'avenir, peut-être un futur océan.
Océan, voilà, c'est ce qu'on dit en tous les cas.
Ouais. Et c'est pour ça qu'on a toute cette activité hydrothermale. On a un point chaud qui est très près, donc il y a une poche magmatique.
Alors c'est ça, oui.
Très, peut-être quelques kilomètres, mais très près sous la surface du dôme de Dalol et sur la surface de la dépression du Danakil. Et ça permet de réchauffer l'ensemble des eaux qui restent encore. Hein. Il faut savoir que tous ces bras des mers laissent parfois des poches et qui font des lacs hyper salés. Le lac à salé n'est pas très loin, pas celui de Djibouti, mais celui d'Éthiopie. Donc c'est des lacs résiduels hyper salés. Et toutes les eaux qui ruissellent vers les fonds de cette cuvette sont réchauffées par ce point magmatique et remontent en nourrissant tout ce système hydrothermal très actif et très changeant, parce qu'il est très changeant.
Ouais. Olivier Grunewald, pour autant, on ne peut pas parler de volcan sur place?
Non, on ne peut pas vraiment parler de volcan, même si ce qu'on appelle l'USGS, le grand service nord-américain de volcanisme, a identifié Dalol comme un volcan. En fait, un volcan implique qu'il y ait des émissions de matériaux de magmatiques en surface, donc des dépôts de lave, des dépôts de cendres, et on n'en a pas trouvé. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment parler de volcan.
Il y a du magma.
Il y a du magma.
Mais il n'y a pas de lave et pas de cendres.
Mais, petit bémol, en fait, on a fait deux expéditions. Une en 2016, une autre. Et cette année, en janvier 2017. Et on a trouvé des verres volcaniques cette année, avec peut-être de la pierre ponce, qui voudrait dire, si cela est confirmé par des analyses qu'on est en train de réaliser, que peut-être Dalol est un vrai volcan. Question ouverte, on saura la réponse bientôt.
Bon, vous nous en informez dès que vous êtes au courant officiellement. Dalol aux frontières de la vie, extrait de votre documentaire pour bien comprendre les conditions particulières de ce milieu.
La température atteint 110 degrés. Et à cette température, quand le liquide sort de la source, le sel précipite et on a cette belle couleur blanche. Mais dès que la température descend ou que la source se désactive, on commence à avoir la condensation du soufre. C'est la condensation du soufre qui donne cette couleur jaune. Plus tard, après la condensation du soufre, nous avons le fer qui commence à travailler. Et nous avons l'oxydation du fer et toutes ces couleurs avec le vert, le rouge, l'orange, toutes les différentes sortes d'oxydation du fer. C'est comme ça que se forment les couleurs ici. En plus, au même moment, nous avons en différents endroits différents types de cristallisation. Nous avons ce que nous appelons des dômes, des nénuphars, différentes formes qui sont très éphémères. Nous avons l'habitude de penser et d'entendre que la géologie est très lente. À Dalol, c'est complètement l'inverse. C'est extrêmement dynamique. Ce que nous avons aujourd'hui sera peut-être demain complètement différent. Cela fait de Dalol pas seulement un musée d'art naturel, mais un musée où l'exposition change tous les jours.
Un musée d'art naturel, effectivement, la formule est la bonne, hein, Olivier Grunewald, quand on voit la beauté époustouflante de Dalol.
Oui, c'est exactement ça, on est dans un endroit où on a une diversité très importante de formes, de couleurs, et d'un jour à l'autre, on va avoir des sources qui vont se désactiver, d'autres qui vont se réactiver. On a vu cette année, par exemple, en moins d'une semaine, une espèce de geyser qui s'est construit, qui a atteint 2,50 m de hauteur.
Jean-Paul demande si on peut trouver ailleurs sur Terre des milieux identiques. Alors, vous rentrez de Yellowstone, par exemple, aux États-Unis. Est-ce que c'est un petit peu le même type de site ou très, très différent?
Alors, le Yellowstone est très différent dans la mesure où déjà, on est dans une zone de montagne avec énormément de végétation. Et c'est pas du tout, même s'il y a une activité hydrothermale très belle, mais on n'est pas du tout dans le même type de contexte où là, à Dalol, on est dans un désert extrêmement chaud et les hautes températures amènent aussi une évaporation très importante, donc une vie géologique très très rapide.
Ailleurs sur la planète, Purification,
Lopez Garcia, je pense que c'est un environnement unique. Donc on connaît pas mal d'endroits où il y a de l'activité hydrothermale sur Terre. À Yellowstone, il y a l'Islande par exemple, il y a El Tatio au Chili. Donc des champs hydrothermaux assez vastes. Mais la particularité de Dalol est la combinaison des paramètres physico-chimiques extrêmes avec une salinité énorme, dû effectivement à ces croûtes de sel de laquelle je parlais et qui, donc ce sel est dissous par les fluides hydrothermaux qui remontent des subsurfaces et donc et qui fait que les eaux sont à saturation, un sel et puis des pH qui peuvent être donc l'acidité qui est très importante, des pH très très bas, y compris on a mesuré des pH négatifs à moins 1, moins 1,5, donc des valeurs vraiment extrêmes qu'on ne trouve pas ailleurs. On peut trouver des pH, des valeurs de pH 0, mais en combinaison avec la forte salinité et des températures qui peuvent monter jusqu'à 110 degrés en sortie des cheminées, c'est non.
Allez, encore une fois, allez sur le site de la Tête au Carré pour voir les photos de Dalol, pour vous rendre compte un petit peu de quoi nous parlons cet après-midi. Ou tapez Dalol sur votre moteur de recherche, vous allez trouver ces images assez étonnantes. On revient dans un instant pour évoquer bien sûr le travail des scientifiques sur place.
Estimé content d'encore dégager quelques excédents. Eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu avale la Méditerranée. Combien de temps d'années, d'années c'est dans ces règlements. Frappant nos demandes sur l'algorithme des mots en rythme pour demain, avoir avec quelle cadence ces rapports souffleurs nonchalance, va croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments, il respire comme il monte. C'est des règlements grandis, le plus grand des règlements.
vraiment, ça prend à la gorge.
Les vapeurs d'acide sulfurique très agressives obligent à anticiper le sens du vent pour s'approcher de certaines zones.
Les négatifs, ça ne m'étonne pas. Non.
Ah oui, c'est chaud, ouais.
Balance là. Hein.
C'est chaud. Ouais.
Voilà, 48, 6 et pH moins 0,79.
Oh. Les mesures obtenues sont étonnantes. La température de l'eau dépasse par endroits les 100 degrés Celsius et la saturation en sel s'approche souvent des 50%, presque deux fois plus que la mer morte. Mais c'est l'acidité qui est la plus surprenante.
Nous sommes à des pH incroyables, au-delà de la limite de la sonde.
L'échelle, ou pH, qui s'étend de 1 à 14, 7 étant la valeur de l'eau potable, sort ici des normes et descend dans des valeurs négatives allant jusqu'à moins 1,55.
Voilà, Dalol en Éthiopie, le sujet de notre tête au carré cet après-midi. Purification de Lopez Garcia, Olivier Grunewald sont mes invités. Purification, vous avez essayé de faire des bains de boue à Dalol comme on le fait à la mer morte ou vaut mieux éviter quand même?
C'est un peu trop acide, la peau part facilement. Là.
C'est ça. Masque à gaz dans cet univers chaud et toxique pour travailler, pour le scientifique? Pas toujours, on ne vous voit pas sans arrêt, mais il y a vraiment des sites...
Il y a énormément d'émissions de gaz, donc on voit une activité hydrothermale avec des fluides qui sortent, mais l'émission des gaz est davantage beaucoup plus importante. Et en fait, en fonction des endroits, on peut avoir des gaz plus ou moins toxiques. Et d'ailleurs, on le voit parce que on n'est pas très loin en fait des montagnes qui s'élèvent des deux côtés érythréens et éthiopiens. Il y a des oiseaux qui passent, qui s'arrêtent peut-être pour boire, ils voient de l'eau, et que à la proximité de ces endroits-là, avec ces émanations toxiques, meurent à côté. Donc il y a plein de cadavres d'oiseaux qui n'ont pas survécu. Donc il y a quelques endroits où effectivement il y a des émissions de gaz pas très recommandables, probablement qui ont des hydrocarbures de type éthane, butane et qui sont toxiques. Et sinon, c'est des émanations acides et donc ça prend à la gorge, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Ouais. Bon, ça, à la limite, c'est plus facile à supporter juste avec un mouchoir, mais c'est dans certains endroits, c'est vraiment des gaz toxiques, donc il faut faire attention.
Olivier Grunewald, il y a du nouveau d'ailleurs depuis le documentaire, puisque vous êtes retourné sur place là, cette année, et vous êtes parvenu à mesurer justement la profondeur du lac Noir. Alors, c'est un lac qu'on voit justement dans ce site, qui fait 70 degrés en moyenne de température, et donc très difficile de pouvoir faire des mesures à l'intérieur.
Alors c'était ce qui est difficile, c'est que l'activité du lac était différente de celle que l'on avait pu voir en janvier 2016. Et donc après, on a essayé de faire des mesures de profondeur. On est arrivé à des mesures de l'ordre d'une dizaine de mètres. Mais ce qui est difficile, c'est que sur place, c'est du bricolage, c'est-à-dire qu'on tend une corde avec des poulies. Enfin, on fait comme on peut parce que on n'a pas de grue. Et donc, est-ce qu'on a trouvé exactement le bon point qui permettait de descendre plus en profondeur? On ne sait pas. Et ce lac noir serait apparu pendant une énorme explosion, ce qu'on appelle hydrothermale, donc pas une explosion typiquement volcanique. Le lac serait apparu en 1926. Il y a des choses qui sont difficiles. Il faudrait un matériel plus compliqué à transporter. Et sur place, de toute façon, tout est très compliqué. Ouais.
Christian nous dit en somalien, Dalol, ça veut dire trou. Et en éthiopien, alors, quelle est la signification de ce site?
Bon, c'est un peu en discussion, mais donc ça serait un environnement chaotique, selon certains Afars, donc les Afars qui nous accompagnaient dans la mission. Donc on a entendu d'autres choses.
Et une autre traduction, c'est ça voudrait dire là où il y a de l'eau.
Oui. Voilà, parce que il y en a de l'eau qui bouillonne, comme on l'entendait dans l'extrait du documentaire. Alors, d'un point de vue là purement scientifique, géologique, qu'est-ce que ce site vous dit de possible justement sur l'apparition ou les processus, les mécanismes d'apparition de vie sur notre planète? Purification Lopez Garcia.
Alors, on ne sait pas où ni quand exactement la vie est apparue sur notre planète. On sait qu'à l'époque où la vie s'est formée, l'hydrothermalisme, c'est-à-dire une activité, la Terre était encore une planète assez chaude qui venait de s'accréter, et donc il fallait qu'elle dégage de la chaleur sous forme d'un hydrothermalisme très actif. Et donc c'est un point qu'on peut imaginer comment, et donc Dalol pourrait être utilisé comme un environnement analogue. Mais on est au jour d'aujourd'hui, la planète a évolué, donc effectivement les conditions ont pu être très différentes.
Ouais.
Donc,
mais Dalol est un site récent par rapport à l'histoire de la Terre ?
Oui, parce que Dalol est sur un continent. Et donc, même si on pense que c'est un endroit où la croûte continentale est en train de devenir croûte océanique, mais la géologie de la Terre a évolué. Hein. Ouais, on est 4 milliards d'années plus tard, ou 4,6 milliards plus tard. Hein. Et donc, effectivement, on n'est plus dans les conditions initiales de la Terre. La Terre n'est pas aussi chaude qu'elle l'était au départ.
Bien sûr. Ouais, oui. Mais alors, vous, qu'est-ce qui vous intéresse en allant là-bas et en faisant tous ces prélèvements ? Parce que le documentaire le montre bien. Vous prélevez tout ce que vous trouvez, finalement.
Oui, alors, on a plusieurs objectifs. Donc, nous avons monté une mission interdisciplinaire. On était avec des géologues, avec des cristallographes minéralogistes. D'ailleurs, on a entendu tout à l'heure Juanma García Ruiz, qui était notre collaborateur cristallographe. Et puis des biologistes, des écologues microbiens. Donc, il y a une grande partie de la mission dont l'objectif est plus d'étudier la formation de ces cristaux, l'environnement géochimique extrême de Dalol, et quel type de formation cristalline, quel est le devenir, comment elle se forme et se dégrade de manière très active. Donc ça, c'est fait tout un volet d'objectifs. Notre objectif en tant que biologiste, c'est plutôt de trouver la vie. Quelles sont les limites de la vie si on les trouve dans cet endroit? Voilà.
Aujourd'hui, les limites de la vie sur Terre, c'est combien de degrés? Parce qu'on en parlait avec Patrick Forter, des microbes de l'enfer, justement, dans ces milieux extrêmes. On peut aller jusqu'où pour l'instant? Alors, à quel degré des micro-organismes arrivent?
En termes de température, la limite de température est d'environ 120 degrés. Mm-hmm. C'est des micro-organismes, notamment des archées, qui sont des très petits micro-organismes, comme des bactéries, mais c'est un autre groupe, un autre domaine du vivant, et qui vivent dans des sources hydrothermales sous-marines qui sont adaptées vraiment à travailler et à vivre dans ces températures si élevées sous pression, parce qu'à 120 degrés, il faut qu'il y ait quand même de l'eau liquide, donc on ne peut avoir de l'eau liquide que sous pression dans les grandes fonds océaniques ou dans la subsurface aussi.
Ouais. Mais vous, le but, c'est de trouver des micro-organismes qui arrivent à vivre dans ces conditions extrêmes.
Notre but, le problème est qu'on connaît la vie dans des environnements très chauds, on connaît la vie dans des environnements très acides, on connaît la vie dans des environnements très salés, mais on ne connaît pas la vie dans des environnements qui sont les trois choses en même temps.
D'accord.
Et ça, c'est lié à la spécificité et au caractère unique de l'environnement de Dalol. Parce que les adaptations moléculaires qu'on peut avoir pour la haute température vont peut-être être antagonistes de celles qui sont nécessaires pour le bas pH.
Et alors, vous en avez trouvé ou pas, alors, en l'occurrence?
Alors, on est en train de le faire. Donc, en fait, l'intérêt de Dalol, c'est qu'il y a le dôme de Dalol, mais il y a plein d'environnements très différents. Donc, c'est un site très hétérogène avec des manifestations différentes hydrothermales. Donc, on a des gradients, des conditions qui sont différentes, des conditions extrêmes simplement, à des conditions très extrêmes, multi-extrêmes. Et donc on a prélevé justement des échantillons tout le long de ces gradients à différents endroits pour voir jusqu'où on trouve la vie. Et peut-être que la vie ne sera pas partout, même si on a de l'eau liquide. Donc ça pose des questions aussi pour la vie ailleurs. Est-ce que si on a de l'eau liquide, on va nécessairement avoir la vie, même si la vie existe sur la planète? Donc peut-être qu'on aura une réponse à ces questions.
Et vous avez rapporté plein d'échantillons dans votre laboratoire. C'est le boulot maintenant, justement, pour vous. Allez, on revient ensemble dans un instant et je vous soumets les questions des auditeurs. Let them fall. Let the teardrops fall. Let the teardrops fall. Let the teardrops fall from your eyes. Let the teardrops fall. Let the teardrops fall.
die till the well runs dry. Brothers and sisters, you never miss your water till your well runs dry. Till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall for what you have done, hurting so many people. See, let them fall from your eyes. Now that you're all alone and you have no one to call your own, you're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't need me as a friend. So let the teardrops fall. To call your own, you're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't want me as a friend. So let the teardrops fall.
Let the water run dry, Ken Booth, à l'instant sur France Inter. Pour Efficacion, Lopez Garcia, spécialiste des micro-organismes en milieu extrême, et Olivier Grunewald, photographe et réalisateur, sont donc mes invités pour parler de ce site étonnant de Dalol en Éthiopie. Un message de Régine qui nous dit ceci: la superficie du site diminue chaque année, j'y étais en 2015. Est-ce que les industries voisines y sont pour quelque chose, Olivier Grunewald?
Alors cette question amène deux réponses. Une première, l'Éthiopie subissait une période de sécheresse assez importante depuis plusieurs années. Et effectivement, là, en 2015, il y avait très peu d'eau, très peu d'activité sur le site. Mmh. L'année suivante, il y a eu de grosses pluies qui ont commencé à la fin de l'automne, donc en novembre-décembre. On a eu beaucoup d'activités et l'été dernier, il y a eu énormément de pluie et le site de Dalol avait encore triplé de surface, mm-hmm. J'allais dire de volume, mais presque. Et en fait, sur place, donc il y a ces projets d'exploitation de potasse qu'on a commencé à voir poindre en 2008. Et la première phase n'était pas une phase d'exploitation, mais une phase d'exploration. Et ça fait maintenant 2 ans que la phase d'exploration est terminée, mais que l'exploitation n'a pas commencé. Et effectivement, les gens sur place disent « Regardez, ils ont arrêté de pomper de l'eau. Regardez, le site s'est réactivé. » Et en fait, c'est un site que j'ai redécouvert avec une équipe donc en 2000-2001. Et en 2008, il y a eu ces projets d'exploitation minière qui ont commencé à poindre. Et la première question qui s'est posée, puisque le principe d'exploitation de la potasse dans cette zone impliquait d'énormes pompages d'eau, ça a été de se dire si l'activité de pompage est trop importante, le site va mourir. Donc c'est en 2008 que j'ai commencé avec Luigi Cantamessa, qui a été le logisticien des missions d'Arun Taziev dans les années 60-70, on a commencé à se dire il faut essayer de faire quelque chose pour sensibiliser le gouvernement éthiopien au fait de protéger ce site, qui est devenu en plus un site majeur au niveau touristique, puisque c'est le site le plus fréquenté maintenant en Éthiopie.
Donc, le but, c'est quoi? Ce serait de le faire classer par l'UNESCO, concrètement?
Le but, ça serait de faire prendre conscience que le site a une grande valeur et paysagère
et scientifique.
Scientifique, mm-hmm. à des tas de niveaux. Donc déjà, essayer de faire prendre en compte des mesures de protection, essayer de, déjà de le faire classer localement comme réserve naturelle, parc national. Après, il y a toutes les mesures mm-hmm. possibles. Et après, d'aider, de se proposer pour aider le gouvernement éthiopien à monter un dossier
pour l'UNESCO.
Pour proposer le classement du site ouais. au patrimoine de l'UNESCO. Seul le gouvernement d'un pays peut proposer un site pour le classement. Mmh. Alors pour l'instant, le site se retrouve à être autoprotégé par à la fois le fait que l'exploitation minière n'a pas commencé pour différentes raisons, problème de coût d'exploitation, parce qu'il n'y a pas de moyen d'emmener la potasse sur la mer Rouge, donc ça voudrait dire l'évacuer par Djibouti, donc des coûts trop élevés. Mmh. Et c'est vrai que l'Éthiopie est dans un climat de situation difficile au niveau politique. Il y a eu des événements douloureux l'automne dernier. Au mois de juin dernier, il y a eu des échanges de tirs avec l'Érythrée. Donc pour l'instant, le site est actif, mais c'est son devenir ouais. qui est en question.
Le gouvernement éthiopien, Purification López García, est sensible justement à la protection de ce site, réellement ou pas ?
En fait, on ne le sait pas, mais on a au moins eu l'opportunité de rencontrer l'assistant de ministre de l'Éducation et de la Recherche mm-hmm. cette année à l'Université de Mekele, qui fêtait ses 25e anniversaire. Et on a établi un accord de coopération avec cette université. On a pu rencontrer les présidents ouais. et l'adjoint du ministre leur sensibiliser.
Il y a l'urgence, même pour les scientifiques aujourd'hui.
Il y a l'urgence, mais comme la situation du pays est un peu, donc c'est un pays qui est en état d'urgence actuellement. Mmh. Beaucoup de choses se sont arrêtées le temps de pour des raisons politiques, disons. Et donc je crains que ce n'est peut-être pas la priorité à ce moment-là. Mais nous, on fait tout pour qu'effectivement ils prennent conscience et ils fassent une demande.
Voilà. Et on attend. Il faut prélever des échantillons pour évidemment travailler et faire des découvertes importantes aussi pour la connaissance, parce que c'est ça le but aussi de tout votre travail. Est-ce que vous attendez à découvrir des micro-organismes totalement inconnus jusqu'alors ?
Ça, c'est ce qu'on aimerait voir. Mmh. D'ailleurs, on a quelques résultats préliminaires, non pas sur les sites les plus multi-extrêmes, mais sur les sites qui sont extrêmes tout court ou qui sont. Et on a déjà identifié la présence des micro-organismes appartenant plus particulièrement au domaine des archées, donc mm-hmm. Qui sont plus facilement adaptables aux environnements extrêmes. Et on a des lignées d'archées halophiles, une grande variété. On a quelques lignées qui se placent plus profond dans cette branche-là. Et on a également identifié la présence d'une lignée un peu plus profonde qui pour laquelle on n'a pas des représentants cultivés.
Ça veut dire quoi, une lignée plus profonde ?
Une lignée, c'est-à-dire qui est, il faut que je parle en termes d'arbres phylogénétiques, donc c'est un peu de jargon des scientifiques, c'est-à-dire des lignées qui sont plus divergentes, plus mm-hmm. Évolutivement plus différentes ou plus divergentes de celles qui sont connues. Et pour l'instant, on n'a que des séquences dont on essaye de savoir quel est le fonctionnement.
Bon, ben bon travail, parce que tous ces échantillons sont revenus d'Éthiopie dans votre laboratoire. Hein, donc maintenant, il faut travailler, parce que vous en avez un sacré paquet quand même, maintenant à étudier et à analyser sous différentes formes.
Oui, en fait, on essaie de travailler du point de vue de la biologie à deux grands niveaux, d'appliquer des méthodes de culture pour voir si on est capable d'isoler des micro-organismes en laboratoire et les étudier. Et après, une voie qui consiste à étudier les séquences, les génomes, les métagénomes, pour obtenir des informations.
Et on le voit très bien dans le documentaire, justement, comment vous procédez avec ces techniques très précises. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Grunewald, donc, ce film, ce documentaire est à voir sur Dailymotion en ce moment. Avant une diffusion sur TV5 bientôt.
TV5 Monde, tout à fait.
Voilà, donc ça s'appelle Dalol aux frontières de la vie. Et donc n'hésitez pas également à regarder les photos que vous nous avez apportées et qui sont sur le site de La Tête au Carré. Vous allez retourner là-bas prochainement ?
J'espère, j'espère. C'est toujours
d'autres choses à filmer.
Ce qui se passe surtout, c'est que j'aimerais arriver au bout de ce projet et effectivement avoir d'autres rendez-vous avec des ministres pour pouvoir sensibiliser réellement à la valeur du site. Tenez en tout cas à remercier la Fondation IRIS qui nous a aidés pour la mission de 2016, parce que sans eux, on n'aurait pas pu partir. Et effectivement, j'ai qu'une envie, c'est de repartir là-bas.
Alors, ce documentaire est à voir, Dalol aux frontières de la vie. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Monsieur le ministre de la Santé, élu par les lectrices du magazine Cosette. Alors, qu'avait-il donc de si séduisant dans votre programme pour être ministre déjà ?
Bon, des choses banales Mathieu. D'abord, oublier l'idée que l'obligation vaccinale va restaurer la confiance dans les vaccins, et puis imposer que les médicaments génériques soient en tout point identiques aux médicaments copiés. Mais c'est ma troisième proposition dont je voudrais vous parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'évaluer la qualité du travail des médecins à partir de données subjectives.
Ouais. Subjectivité, c'est ça ? C'est pas un gros mot pour les scientifiques quand même ?
Oui et non, Mathieu. La subjectivité primaire, hein, celle qui consiste à ériger en dogme un avis personnel, et bien sûr aux antipodes de la science. La subjectivité du chercheur, c'est un des principaux pièges aussi de la science, car les chercheurs sont souvent à peu près aussi objectifs vis-à-vis de leur théorie que les parents le sont vis-à-vis de leurs enfants. La science moderne se veut donc objective. Elle privilégie les données mesurables et pourchasse la subjectivité comme le jardinier traque les mauvaises herbes. Et pourtant, si la rédaction d'un article scientifique impose de référencer chaque affirmation, bien sûr, l'étape finale passe par l'arbitrage des référis, ces chercheurs réputés qui relisent le papier pour le compte de l'éditeur. Et ces relecteurs peuvent imposer à l'auteur de réécrire ou de préciser certains passages. Plus subjectif, tu meurs. D'autant que ces arbitres peuvent avoir des conflits d'intérêts dans le domaine traité ou avec les auteurs. Donc, l'objectivité absolue, c'est un mythe.
D'abord, tout s'écroule.
Voilà. Mais la subjectivité qui m'intéresse est plus complexe et surtout, elle est collective. Prenons un exemple, Mathieu, comment faire pour identifier un des meilleurs chirurgiens du genou ?
Ben, je sais pas, le nombre d'opérations peut-être qu'il a pratiquées, non ?
Ouais, c'est classique, mais c'est bof-bof. Hein. Le meilleur critère, c'est le nombre de rhumatologues et de kinésithérapeutes du coin à qui ils envoient leur vieille mère.
Ah, ouais.
Mais oui, il n'y a pas plus subjectif comme méthode d'évaluation quantitative, mais je vous promets que c'est la plus efficace. En fait, c'est comme si vous aviez agrégé des centaines de critères objectifs que vous ne pouvez pas mesurer individuellement.
Et ça se fait, ça, vraiment, alors ?
Bah, pas du tout officiellement, bien sûr. Hein. En revanche, c'est comme ça que procèdent les médecins entre eux pour trouver les meilleures adresses. Ils téléphonent aux confrères à qui ils ont confiance, et c'est vrai pour beaucoup d'autres professions. Alors, en revanche, les tutelles sanitaires continuent d'évaluer les médecins sur des critères chiffrés sans intérêt. C'est un peu comme si on évaluait les journalistes à la longueur de leurs phrases ou à la présence de certains mots. C'est cela que je changerais si j'étais autre chose qu'un ministre de papier. Google a montré que les critères subjectifs de son algorithme étaient infiniment plus pertinents que l'analyse traditionnelle objective du contenu des pages Internet. Je propose donc de faire le Google des médecins.
Oh là là, bah vous allez vous faire des amis là, non ?
Ouais, je sais. Mais enfin, bon, les ruptures de paradigme sont rarement paisibles.
Bon, bah écoutez, à suivre en tout cas. Merci beaucoup, docteur Dupagne.
À jeudi prochain.